الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. La connaissance de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est fondamentale, vous entendez? Parce que Dieu, dans le Coran, dit que le prophète est un modèle et un exemple pour nous. C'est-à-dire, on doit savoir ce que le prophète a dit, ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour pouvoir nous inspirer de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Comme ça, ça évite de perdre notre temps et d'avoir des expériences malencontreuses. Ouais. L'homme intelligent, c'est celui qui tire des expériences du passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et regardez, la semaine prochaine, mercredi, c'est l'Hijr, un événement important. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû quitter la Mecque sous la pression des Mécois intolérants qui ne supportaient plus l'existence des musulmans parmi eux. Et surtout, ils ne supportaient plus que les musulmans jouissent de la liberté d'expression. Donc ils ont voulu museler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, car ils craignaient que cette religion se répande. Au lieu de la combattre à travers le dialogue, à travers l'échange, et prouver que cette religion est fausse, ils utilisaient la force et la pression physique et psychologique. Pourquoi? Pour étouffer la lumière et la vérité. Très bien. Regardez ce qui s'est passé avant l'Hijr. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvant plus prêcher sa religion à la Mecque, aller vers les gens qui n'étaient pas des Mécois. Il ne ratait pas une occasion. Pendant le pèlerinage, pendant les petits pèlerinages, toute fois que des tribus venaient à la Mecque, il allait vers ces tribus-là et dialoguait avec elles dans l'espoir qu'elles se convertissent à l'islam. Il est même arrivé à un moment donné de dire aux gens, est-ce que les tribus autres que Quraysh, est-ce qu'il y aurait parmi vous une tribu qui veut bien m'accepter parmi elles et prendre ma défense? C'est-à-dire que le prophète alayhi salam n'était plus en sécurité à la Mecque et il recherchait une protection, où ça? À l'extérieur. C'est-à-dire son peuple le combattait, chez lui il ne pouvait plus pratiquer ni répandre sa religion, donc il a fait le pas, il est allé vers les autres dans l'espoir de trouver des personnes étrangères pour le défendre. Et quand il est sorti de la Mecque, il est allé à Taïf, une ville qui se trouve à 70 km de la Mecque. Il est revenu, bredouille bien entendu, puisqu'ils n'ont pas voulu l'écouter ni le défendre. Quand il a voulu rentrer chez lui, écoutez bien ce qui lui est arrivé, les dirigeants de la Mecque, les notables, donc ils ont fait un arrêté municipal, d'accord, pour l'interdire de rentrer chez lui. Et le prophète est né à la Mecque, il a toujours vécu à la Mecque, c'est un Mécois, il a un titre de propriété, il a sa maison, il paie ses impôts en temps et en heure, c'est un citoyen modèle, casier judiciaire vierge. Il n'a qu'un défaut, c'est qu'il a décidé, en toute liberté, de croire en Dieu. Très bien. On l'expulse, on l'extradit de sa demeure. Tu n'as pas, et on ne te laissera pas rentrer à la Mecque. Vous vous rendez compte jusqu'où va la pression et la répression? Et le prophète se retrouve au faubourg de la Mecque, seul. Est-ce que vous vous rendez compte? Même les musulmans qui sont à la Mecque ne pouvaient pas prendre la défense du prophète, alayhi salam. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient en posture de faiblesse. Il n'y a aucun musulman qui est sorti pour aller prendre la défense du prophète. Parce qu'ils ne peuvent pas. Musulmans à la Mecque n'avaient pas les moyens, ni militaires, ni politiques, ni économiques, ni médiatiques. Ils subissaient, ils étaient opprimés. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous entendez? À un moment donné, il ne pouvait pas rentrer chez lui. On lui a dit, expulsion, tu restes dehors, tu ne rentres pas. Il faut le faire quand même, c'est terrible. Hein? Très bien. Qui va prendre sa défense? Qui va oser, vous entendez, oser se faire l'avocat du diable? Un homme qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi, un notable de la Mecque, qui avait des valeurs humaines. Il prend ses enfants, prend son épée, il va à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il lui dit? Ya Muhammad, désormais tu es sous ma protection, à partir d'aujourd'hui. Viens, je vais te ramener chez toi. Il prend avec lui le prophète alayhi salam, il le ramène, il va au centre-ville, là où se trouve la Kaaba, il prend la parole en public et vous savez ce qu'il dit? Il dit, Mohammed est sous ma protection. S'il y a parmi vous quelqu'un qui veut m'en empêcher, qu'il vienne. Je vais le combattre, quitte à y laisser ma peau. C'est-à-dire que cet homme, El-Mut'im ibn Adi, ouvrez bien vos oreilles, il est prêt à mourir. Pourquoi ? Pour défendre notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce n'est pas qu'il est prêt à mourir. Il est prêt à sacrifier tous ses enfants. Vous entendez ? C'est encore plus valorisant pour lui. Ses enfants. Pour qui ? Pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et El-Mut'im ibn Adi n'est pas musulman. Vous entendez ? C'est un polythéiste, un adorateur de statues. Mais c'est un être humain avant tout qui a des valeurs. C'est un être humain qui a des principes. Et les notables de la Mecque n'oseront pas remettre en question le geste de El-Mut'im ibn Adi. Par respect pour cet homme. Parce qu'ils le respectent et ils le craignent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rentre chez lui sous la protection d'un non-musulman. Regardez ce qui va se passer. Bien entendu, ils ont du mal à l'avaler. Qu'est-ce qu'ils font ? À nouveau un conseil municipal. Et cette fois, ils décident de faire la pire des choses. D'isoler les musulmans et les mettre en quarantaine. Ils vont faire un embargo sur la communauté musulmane de la Mecque. Et c'est un embargo qui va durer 3 ans. Pendant 3 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans qui le suivent, écoutez bien, et les non-musulmans du clan du prophète. Ils ont mis tout le monde dans le même sac. Les musulmans et les non-musulmans qui ne sont pas hostiles aux musulmans, qui ne sont pas ennemis. Ils vont les expulser de leur demeure et personne n'aura le droit de commercer avec eux. Personne n'aura le droit de leur porter secours. Personne n'aura le droit d'échanger avec eux quoi que ce soit. Nous allons les isoler jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils vont mourir socialement, politiquement, économiquement, physiquement. Et c'est ce qui va se passer, et ça va durer des années. Et ça va être une période très très difficile de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de la communauté musulmane. D'ailleurs, durant cette période, le prophète va perdre son soutien, Abu Talib, qui n'était pas musulman, son épouse, Khadija, radiallahu anha. Et après 3 ans, écoutez bien, qui va à nouveau voler au secours du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Qui va sauver le prophète et la communauté musulmane de l'époque ? Un homme qui n'est pas musulman, mais qui a des valeurs humaines. Cet homme s'appelle El-Mut'im ibn Adi. Il réunit 4 de ses amis et ils discutent de cette injustice et ils se mettent d'accord pour sauver le prophète alayhi salam d'une mort certaine. Le lendemain, ils appellent à une réunion publique au centre-ville, là où se trouve la Kaaba. Les gens répondent à l'invitation, la population mécoise vient, les notables bien entendu viennent, puisque hein, c'est la population, il faut la maîtriser, il faut la diriger. Hein, tout ce qui est réunion publique, il faut qu'ils soient là. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils aient toujours un contact et un impact sur le public. Et El-Mut'im prend la parole. Et vous savez ce qu'il dit ? Il dit, c'est une honte ce que nous faisons subir à cette communauté. Ce sont nos frères malgré tout. On est des concitoyens. On vit ensemble. Hein ? Ils ont des droits. Pourquoi est-ce que nous les privons de ces droits les plus fondamentaux ? Certes, on n'a pas la même religion, mais un peu de tolérance quand même. Et El-Mut'im va prendre la parole et défendre le prophète de l'islam. Les opprimés, il va défendre la justice. Et quelqu'un d'autre dans le public prend la parole et va dans le même sens qu'El-Mut'im ibn Adi. Oui, c'est vrai, c'est pas juste, pourquoi on leur fait ça, c'est pas bien, etc. Quelqu'un d'autre prend la parole. Ils se sont répandus dans la salle. Et un autre prend la parole, il dit la même chose, il va dans le même sens. Quelqu'un d'autre prend la parole et va dans le même sens, il dit mieux encore. Un nouveau quelqu'un, regardez, ils se sont répartis dans la salle et ils ont créé l'opinion publique. Vous entendez? Et Abu Lahab et Abu Jahl sont présents et ils analysent la situation et ils ont vite compris que ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est un complot qui a été ourdi dans les ténèbres de la nuit et que ils pouvaient plus rien faire, c'est trop tard. Les gens ont été sensibilisés. Al-Mut'ib ibn Adi a touché le cœur du public. Et alhamdoulillah, grâce à cet homme, grâce à ces hommes, grâce à cette stratégie intelligente, l'embargo va s'arrêter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va être sauvé, lui et la communauté musulmane, d'une mort certaine. Alors franchement, il n'y a pas de quoi le remercier, ce Mut'ib ibn Adi. Pas de quoi l'applaudir. Vive Al-Mut'im ibn Adi. Heureusement qu'Al-Mut'im ibn Adi. Certains pourraient dire, ouais mais attends, il n'est pas musulman. Et alors? Il vaut mieux un non-musulman juste qui est aux côtés de ceux qui subissent l'injustice qu'un musulman injuste qui fait subir l'injustice. Non? On préfère 1 000 000 000 d'Al-Mut'im ibn Adi qu'un seul Hafid al-Assad. Pseudo-musulmans qui massacrent nos frères tous les jours à hauteur de 100, 150 victimes en Syrie. Non? C'est le bon sens et c'est la logique. Et moi je vous garantis que Hafid al-Assad, il sera en enfer s'il ne se repent pas avec Pharaon et avec Abu Lahab et Abu Jahl. Par contre, Al-Mut'im ibn Adi, lui il sera avec Abu Talib. Et oui, parce qu'Abu Talib, on a questionné le prophète, alayhi salam, ton oncle qui t'a chéri, qui t'a défendu, qui t'a protégé. Il est mort sans s'être converti à l'islam. Est-ce que tout le bien qu'il t'a fait lui sera utile, là-haut? Le prophète a dit, bien sûr qu'il lui sera utile. Dieu est juste, il récompense tout le monde. Alors, Abu Talib sera en enfer puisqu'il ne voulait pas du paradis, il n'a pas voulu croire. Mais, ce sera l'être humain qui sera le moins puni. Il aura une petite punition, de rien du tout. Comparé à celle de Pharaon, hein, à celle de Hafid al-Assad, ou d'Hitler. Ouais. C'est rien. Parce que c'était quelqu'un d'honnête, c'était quelqu'un de juste, c'était quelqu'un de bon. Alors dites-moi, ne trouvez-vous pas qu'il est temps qu'il y ait des Mut'im ibn al-Adi en France pour prendre notre défense? Puisque les musulmans dorment, les pseudo-responsables des communautés musulmanes, ils dorment pas, ils sont dans le coma profond, d'accord? Quant aux pseudo-chefs d'État musulmans qui sont censés, parce que dans certains pays musulmans, vous avez des gens qui sont censés représenter l'islam. Vous savez, ils ont des titres, prince des croyants, chef des croyants. Eux, en vérité, ils n'existent même pas. C'est du virtuel. Ouais, c'est même pas la peine. Alors qu'ils pourraient juste, avec un petit mot, dire, écoutez, vous arrêtez cette propagande anti-islamique, sinon, c'est pas on ferme le robinet, on le diminue, le robinet là, du pétrole, juste on le bouge un peu. Oh là, c'est fini, il n'y a plus de problème. Fini cette pression médiatique, psychologique sur l'islam et les musulmans. Mais non, vous rêvez, si vous croyez que ces gens-là vont prendre votre défense. Au contraire, ils sont sans doute les premiers à quoi? À dire aux ennemis de l'islam, allez-y, plus vous leur en mettez, plus ça nous arrange nous, parce qu'ils veulent rester au pouvoir, puisqu'ils sont contre la démocratie et la liberté. Mais en tout cas, il nous faut des Mut'im ibn Adi, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y en a en France, des Mut'im ibn Adi? Bien sûr qu'il y en a en France, il y en avait à la Mecque. Pourquoi on n'aurait pas en France? Et il y en a en France, et il y en a partout sur terre, et il y en aura toujours. Vous savez pourquoi il y en aura toujours? C'est la volonté de Dieu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu, écoutez bien, secourt la communauté musulmane. Dieu appelle apporte son aide à la communauté musulmane, aux musulmans, via, à travers qui? À travers un non-musulman. Le mec n'est pas musulman, la femme n'est pas musulmane, et vous savez ce qu'elle fait? Elle est aux côtés des musulmans parce qu'elle considère que les musulmans subissent une injustice, parce que ce sont des êtres humains qui ont une conscience. Et ça existe et ça existera toujours. Mais le problème, il est où? Le problème, il est dans notre capacité, nous, communauté musulmane, à communiquer avec ces gens-là qui existent, à créer des relations avec eux, ou tout simplement à nous allier avec eux pour défendre les causes justes. Et des causes justes, il y en a beaucoup en France, il y en a énormément. Il y a la cause musulmane, puisque c'est qu'on subit pas mal d'injustices. Et puis il y en a d'autres qui subissent aussi des injustices. Les chats, les chiens, les moutons, à gogo. Il y a plein de créatures qui subissent des injustices. Et si on se coalisait, nous tous, ben vous savez ce qu'on ferait? On ferait un front contre l'injustice, contre les malheurs, contre les déviances. Mais malheureusement, vous savez ce qu'on fait en tant que musulmans? On se renferme, hein? On crée notre propre embargo, hein, intellectuel, psychologique. Et résultat, on n'a de relation avec personne. On ne connaît pas les Mont'aïm ibn Adi qui sont partout dans la société. Les Mont'aïm ne nous connaissent pas. Se posent même des questions, est-ce que les musulmans sont normalement constitués? Et puis le jour où, vous allez voir, où ils vont nous découvrir, ben, croyez-moi qu'ils vont sortir avec leurs enfants, leurs femmes et leurs chiens, et leur épée, non, aujourd'hui on ne se bat plus avec des épées, leur micro, ouais, leur radio, leur télévision, leur blog, vous entendez? Et ils vont prendre la parole pour dire, cet homme, il est sous ma protection, cet homme, je le garantis, cette mosquée, c'est la mienne. C'est ma mosquée. Pourquoi? Parce que je la connais, j'y suis allé. Les gens qui la fréquentent, je les connais, ils m'ont accueilli. On a passé des heures, nous avons discuté. Nous avons les mêmes idées. En ce qui concerne l'avenir de notre société. On diverge peut-être sur des croyances, mais chacun sa religion, bon sang. Et c'est pas un problème d'avoir des religions différentes. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est de ne pas accepter que l'autre soit différent. Et nous, en tant que musulmans, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Nous acceptons la pluralité des religions parce que c'est la volonté de Dieu. Par contre, dans les faits et les gestes, nous avons une certaine allergie, une peur, une crispation. On a du mal à aller vers les autres et à parler avec eux. Parce que nous croyons, ou plutôt, on nous a mis dans la tête qu'il fallait que nous croyions que tout le monde nous déteste, tout le monde veut notre peau. Tout le monde est Abu Jahl et Abu Lahab. L'arnaque du siècle. C'est pas vrai. Les Abu Jahl et Abu Lahab sont ultra minoritaires, mais ils ont beaucoup de pouvoir. Par contre, les Al-Mont'aim ibn Adi, il y en a beaucoup. Bon, ça reste que le peuple reste majoritaire. Mais le peuple, il suffit de mettre une personne ici, une là-bas, une là-bas, une là-bas, et puis, voilà. Tu peux avoir un impact et une influence. Donc pour passer concrètement après la parole, il faut passer aux actes, sinon ça ne sert à rien. Hein, c'est une perte de temps aussi bien pour moi que pour vous. Ouais. On parle, pourquoi? Pour comprendre, on soulève une problématique, on essaie de l'analyser, on essaie de la comprendre, et ensuite on passe aux actes. Sinon, tout se retournera contre nous. Allez, Dieu n'accepte pas, et Dieu n'aime pas. Vous savez qui? Ceux qui parlent et qui n'agissent pas. C'est clair. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. C'est une grande ignominie. C'est grave. Vous entendez? C'est très grave que d'entendre, de comprendre et de ne pas agir. Donc vous êtes tous invités jeudi inshallah, ce jeudi. Donc vous trompez pas. Hein. Jeudi, il y en a qu'un qui arrive là. C'est le 17, je crois, c'est ça? Non, le 15, pardon. Donc le jeudi 15, à 19h30, à Marly. Vous savez où c'est Marly? C'est juste à côté. La mairie de Marly. Il y a une salle de conférence pour une conférence débat sur les religions et la paix. Quelle est la position de l'islam quant à la guerre et à la paix? Quelle est la position du christianisme quant à la guerre et à la paix? Pourquoi il vous est demandé d'être présent? Bah pour mieux comprendre votre religion, mais mieux comprendre aussi le christianisme. Moi, vous allez entendre un chrétien parler de sa religion et de ce qu'il pense de la paix. C'est nécessaire, vous entendez, d'aller à la source, sans passer par des intermédiaires. Et en plus, vous avez besoin aussi de lui poser des questions, pour mieux comprendre. Peut-être vous avez des préjugés, vous avez des zones troubles quant au christianisme. Parce que, écoutez bien, la pire des choses dans une société, c'est que les gens se côtoient et s'ignorent. Car l'être humain, par nature, a peur de ce qu'il ignore. Deuxièmement, vous vous rendez compte? Vous êtes présent, vous participez physiquement, intellectuellement et humainement. Vous rencontrez des gens, vous faites connaissance, vous échangez. Des non-musulmans seront présents et ils vont côtoyer des musulmans. Mais c'est le top. Vous savez ce qu'ils vont découvrir après 2 heures? Vous n'avez pas explosé. Vous êtes toujours là, vivant. Ouais, vous n'avez pas sauté, vous n'avez pas hurlé, vous n'avez pas mordu. Vous rigolez, mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes des monstres? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, on leur a mis dans la tête que nous étions des monstres? Comment voulez-vous que cette image disparaisse? Dites-moi, billahi alaykoum. Si, elle peut disparaître, vous savez comment? En rêvant. Hein, vous rêvez, vous imaginez que bon, ça n'existe plus. Mais c'est du baratin, ça existe. Pourquoi ça existe? Parce que le sondage, là, ils viennent de vous faire une étude sur l'islam. On ne lit pas, on n'écoute pas. C'est sorti. Peut-être une prochaine khutba, je vous ramènerai les chiffres. Mais c'est grave ce qui se passe. Qu'avec l'islamophobie, la haine envers l'islam et les musulmans, ça a augmenté de 40%. Mais ça n'a pas augmenté par une opération du Saint-Esprit. Vous savez comment ça a augmenté? Parce que des gens se sont assis autour d'une table et ont décidé que le peuple français européen et la planète tout entière et le cosmos tout entière devaient avoir un ennemi qui s'appelle l'islam et les musulmans. Et ils ont fait une stratégie. On va faire comme ça, on va dire ça, on va agir comme ça, la fréquence, les moyens. Tout est calculé et pensé. Ben, Shaitan, il bosse, il a des résultats. On fait quoi, nous? Billahi alaykoum, on fait quoi? Qui ne se plaint pas? Qui n'est pas mal à l'aise? Qui ne souffre pas de tout cela? Si vous ne souffrez pas, c'est que c'est grave, en tout cas, hein. Si vous en foutez de tout ce qui se dit sur l'islam et les musulmans, c'est grave. Je vous invite à vous convertir à l'islam. Ben c'est grave, vous n'êtes pas sensible. Donc si on est sensible, nous devons agir. Et l'action, elle est simple. Vous savez c'est quoi? Il faut côtoyer les gens. Il faut parler avec les gens. Ou tout simplement, ne parle pas. Reste comme tu es. Tu verras. La personne, elle va découvrir que, ben, tiens, elle va te toucher. Oh, c'est bon. Il est fait de chair et d'os. Ouais. Oh, il y a du sang. Ça va. Tiens, il est vivant. C'est un être humain. Voilà. Rien que ça, ta présence à elle toute seule est suffisante. Quand si tu arrives à être présent et à t'exprimer, et à exprimer les sentiments nobles qui sont au fond de toi-même, wallah, vous gagnez le cœur d'une personne. Vous avez désamorcé une bombe. Vous entendez? Vous touchez le cœur d'une personne, vous avez désamorcé une bombe. Parce qu'il y en a qui sont en train de monter la tête aux gens pour devenir des bombes qui vont nous exploser au visage. Et on peut perdre des droits demain. Des lois peuvent être à nouveau votées contre nos droits fondamentaux. Et c'est déjà arrivé, ça va peut-être encore arriver. Vous allez me dire, ouais, c'est pas parce qu'on va assister à une conférence que ça va changer quelque chose. Très bien. Si vous pensez que ça va rien changer, dites-moi ce qu'il faut faire pour que ça change. Haya, il y a une boîte à idées là-bas. Ouais. Vous écrivez et vous mettez votre stratégie, votre plan, votre idée, puis vous nous la donnez, on va la mettre en pratique. On va vous aider à la mettre. Allez, c'est incroyable. À chaque fois que tu fais un effort, que tu as pensé, que tu as réfléchi, que tu dis il faut faire ça, il y aura toujours un petit shaitan dans ta tête qui va dire « Ben non, ça ne sert à rien ». Non. Vous savez ce qu'il va vous dire, shaitan? Les autres, ils vont y aller. Si moi tout seul, j'y vais pas, c'est rien. Vous entendez? Les autres, ils vont y aller. Oh, c'est pas parce que moi, je serai absent que ça va changer quelque chose. Le problème, c'est que tout le monde dit « Moi, J'y vais pas parce que les autres y vont. Résultat, bah, ils sont où? Ah bah, ils pensaient que... Vous avez vu comment on est? Tout pour ne pas sortir de son fauteuil, de son sdaré, pardon, le jeudi à 19h15. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire sortir de chez soi, fi sabilillah? Chaque pas que vous faites, c'est une hasanat, un péché en moins. Est-ce que vous savez que toute la poussière, la boue qui va se coller à vous, c'est des tonnes et des tonnes de hasanat sur le plateau de la balance le jour de la résurrection? Non, attendez. Le meilleur hadith, c'est celui-ci. Celui qui passe, écoutez bien, un laps de temps, fisabilillah, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. Combien de temps? Le temps de traire une chamelle. Vous savez combien de temps ça met de traire une chamelle? Parce qu'il y a des gens ici qui ont trait des chamelles. Non? Très bien. À tout casser, 10 minutes, tu as fini de traire ta chamelle. C'est 3-4 litres, hein? J'exagère, hein? 3, 10 minutes, la chamelle, elle est traite. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, celui qui donne 10 minutes de son temps, fi sabilillah, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il aura au paradis mieux que la surface de la terre et mieux que toutes les jouissances qui existent sur terre. Dans une autre interprétation, le poids de la terre et tout ce qu'il y a dedans, c'est ce que tu auras en hasanat le jour de la résurrection, parce que je dis, tu vas donner 10 minutes de ton temps, fi sabilillah. Ta présence, ton existence dans un milieu avec l'intention d'être utile vaut la terre tout entière en hasanat. Haya, qu'est-ce qu'on a encore comme argument et excuse? Il y a une finale jeudi? Non, il y a une finale, il y a un classico, il y a quoi? Il n'y a rien. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste, inshallah, que je dis, vous allez tous venir à la salle de la mairie de Marly. Quand je dis tous, c'est vous et vos femmes. Hein. Attention, hein. L'égalité, la parité, c'est obligatoire en France. Hein. Il y a une loi qui a été votée. Ouais. Vous ramenez même vos enfants, tiens. Ça mettra de l'ambiance. Comme samedi. Ouais, samedi, vous avez mis de l'ambiance, par contre, Allahi Barak. Et ça fait plaisir, wallah. Ça fait plaisir de voir dans cette mosquée des... C'est pas 100 gosses qu'il y avait, c'est 150, 200. Une catastrophe, une baraka, Allahi Barak. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte? Une mosquée comme ça, 200 gosses. Tu sais plus où donner de la tête, walillah ilham, ça fait plaisir. Ça prouve que vous voulez le bien de vos enfants. Et vous cherchez à quoi? Vous cherchez à ce que vos enfants, inshallah, soient meilleurs que vous. Enfin, continuez comme ça, Allahi Barak fikoum. Merci pour les gâteaux que vous avez ramenés, bien que je n'ai pas pu goûter, malheureusement. Mais il paraît que c'était très beau et c'était surtout très bon. Merci pour tous les frères et les sœurs qui ont ramené de la viande. Il y en avait à gogo, n'est-ce pas? Il en reste encore pour la prochaine fois. Merci pour une personne qui n'est pas là parce qu'elle est occupée, mais je pense que c'est la personne qui a fait le plus de plaisir ce soir-là, puisque les enfants sont repartis avec des cadeaux, n'est-ce pas? Ben, sachez que ces cadeaux-là sont le fruit de la bonté, de la générosité d'un homme qui s'appelle Moustak, d'accord? Notre frère Moustak, qui ne le connaît pas, si vous ne le connaissez pas, vous le connaissez maintenant. C'est quelqu'un qui a le cœur dans la main. Vous entendez? Le cœur dans la main. Il donne sans compter quand il s'agit d'islam, quand il s'agit de musulmans. La preuve, regardez, les enfants, alhamdoulilah, sont repartis contents et heureux. Mais merci aux femmes qui ont passé des heures dans la cuisine, hein, vous savez, à faire à manger. Hein, tiramisu, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal quand même. Hein, oh là là, si je commence à faire la liste de tous les bienfaits de cette soirée-là, walillah ilhamd, ils sont innombrables. Merci surtout, vous savez à qui? Aux responsables de cette mosquée. Allahi barak, Allah yahfodhum. Que Dieu leur donne la force de tenir bon, parce que c'est pas évident. Hein. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot avant, pendant et après. Voilà qui ne savait plaisir de travailler pour l'islam et les musulmans, surtout des musulmans comme vous. Bon, il nous manque juste quelqu'un ici. Il n'est pas encore rentré. Il est rentré, Abdelrahman Abdelhaq? Non, punaise, il est encore au pèlerinage. Quelle chance il a, celui-là. Notre trésorier, il est parti à la Mecque, donc il n'est pas là, malheureusement, ce soir, parce que j'ai repéré ici des gens qui ne cotisent pas. Ouais. Donc, si le trésorier était là, il aurait pris leur cotisation, mais on va trouver un trésorier route secours. D'accord? Donc, vous avez le frère Mustafa, le président qui est là, vous avez le frère Abdelhaq. Hein, Allah ybarik fikoum, les frères et les sœurs qui ne cotisent pas, passez à la caisse, donnez votre nom, cotisez. C'est quoi 20 euros par semaine, par mois, pardon. Ouais, c'est rien du tout. Avec ça, on peut faire encore 10 fois plus d'activités pour vos enfants, pour nos parents, etc. Et c'est comme ça que l'islam avance. Allah ybarik fikoum. Qu'Allah vous bénisse et vous protège. Et fasse, inshallah, que vous soyez meilleur que ce que vous avez été samedi. Et surtout que jeudi, vous soyez présents en nombre avec vos femmes, vos enfants. Ramenez vos collègues de travail, vos voisins et tout ce qui bouge et ce qui bouge pas. Excusez-moi, hein, c'est parce que c'est tombé par terre. Ça, c'est quelqu'un qui a fait une sadaqa pour la mosquée. D'accord ? Il nous a demandé de faire des du'as pour lui. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Hein. Il y a des gens qui viennent à l'Jumu'ah. Et ils ramènent à manger, ils ramènent à boire, ou ils ramènent de l'argent, ils disent, tenez, ça c'est pour la mosquée, faites-moi des du'as. Alhamdulillah, tant qu'il y aura des musulmans et des musulmanes soucieux d'aider la maison de Dieu, l'islam avancera. Qu'Allah accepte sa sadaqa. Allahumma taqabbal minhu. Allahumma barik lahu fi malihi, wa fi sihatihi, wa fi awladihi. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma aftah alayna futuha al-arifin. Allahumma aiz l'islam bina wa aizna bil-islam. اللهم أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا واحفظ أولادنا من شياطين الإنس والجن اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم ادخلنا الجنة برحمتك ولا تدخلنا النار بعفوك يا رب آمين والحمد لله رب العالمين